Le débat du jour, Jean-François Cadet.
Les écologistes ont-ils perdu leur âme? C'est un peu ce que vous nous dites, Fabrice Nicolino, dans votre dernier livre intitulé « Qui a tué l'écologie ?» et publié aux éditions Les Liens qui Libèrent. Bonjour.
Bonjour à vous.
Alors Fabrice Nicolino, vous êtes journaliste engagé de longue date dans le combat écologique. Vous avez publié des livres qui ont fait pas mal de bruit sur les pesticides et l'industrie de la viande en particulier. Et pour débattre avec vous, un autre journaliste, un autre écolo. Bonsoir, Claude-Marie Vadraud.
Bonsoir.
Vous écrivez dans Politis et sur le site internet Mediapart. Alors Fabrice Nicolino, vous êtes donc, on l'a dit, clairement un militant de l'écologie. Alors, pas de l'écologie politique au sens où l'entendent les Verts, par exemple, mais écologiste d'un combat en faveur d'une refondation du monde face aux menaces globales qui planent, selon vous, sur la planète. Vous l'écrivez vous-même, d'ailleurs, un tel programme est devenu extrémiste. Et vous nous racontez que face à cela, eh bien, les mouvements écologistes ont démissionné, qu'ils n'ont pas seulement démissionné, d'ailleurs, mais qu'ils sont devenus complaisants, voire complices des politiques et des industriels. Bref, les écologistes, pour vous, ont perdu leur âme ?
Bah oui, tout simplement. Disons-le franchement. En tout cas, c'est pas seulement mon opinion, c'est mon opinion, mais elle est documentée, elle est argumentée. J'ai fait une enquête longue. J'ai découvert des choses tout à fait étonnantes sur les grandes associations écologistes que j'appelle dans mon livre la bande des quatre, c'est-à-dire le WWF, Greenpeace, la Fondation Nicolas Hulot et France Nature Environnement. Oui, je pense qu'on peut parler de ça, d'une perte de l'âme profonde de ce mouvement qui ne ressemble plus à celui qui se développait, disons, après 68, c'est-à-dire au début des années 70. Il y a eu des phénomènes classiques, je dirais, de dégénérescence, de notabilisation, d'institutionnalisation. Mais il n'y a pas que ça. Il y a aussi, en effet, chemin faisant, ces associations ont appris à se rapprocher des pouvoirs étatiques ou industriels, et maintenant on peut parler vraiment d'une sorte de consanguinité généralisée qui, à mon avis, empêche ces associations et donc nous empêche, nous citoyens, de tenter de régler les très graves problèmes de la crise écologique planétaire.
Claude-Marie Vadraud.
Oui, je suis pas d'accord avec cette analyse parce que elle fait injure à des dizaines de milliers de militants qui, sur le terrain, depuis 10 ans, 20 ans, 30 ans, 40 ans, essaient justement d'aider à la prise de conscience de la population. Et ils y ont réussi à provoquer cette prise de conscience. On parle plus des problèmes d'environnement, de protection de la nature, aujourd'hui de nucléaire, qu'il y a 20 ou 30 ans.
Donc, vous parlez des militants, travail. Ça veut dire que vous faites une différence entre les militants et les leaders, les représentants, les porte-parole, les institutionnels, des ONG dont parle Fabrice Nicolino.
Non, je ne fais pas de différence, mais je dis simplement que s'attaquer à ces grandes associations, c'est faire injure aux militants. Et quant à reprocher leur passé à des responsables d'associations, est-ce que c'est vraiment utile? Est-ce que ça a fait progresser la cause qui, Nicolino et moi, nous intéresse?
Oui, parce que c'est un peu la question qu'on se pose, effectivement, quand on lit le livre, Fabrice Nicolino. On a un peu l'impression que vous réglez un petit peu vos comptes.
Non, alors là, en aucune façon.
Parce que vous racontez, vous avez fait une enquête, vous avez passé un coup de fil, on vous a pas répondu, alors vous n'êtes pas content.
Pas du tout, mais pas du tout. Là, je pense que vous avez lu, excusez-moi de vous le dire, vous avez dû lire trop vite ce livre. Et c'est pareil, j'en ai autant au service de Claude-Marie Vadraud. Je doute qu'il ait lu mon livre sérieusement. Parce que dans le livre, à nombreuses reprises, je rends hommage au travail bénévole de dizaines de milliers de personnes sur le terrain. Je suis moi-même membre depuis 23 ans d'une association membre de France Nature Environnement qui s'appelle Bretagne Vivante. Mmh. J'écris bénévolement dans le bulletin de cette association depuis des années. J'ai été membre de l'Assemblée statutaire de Greenpeace. Et je rends hommage à ces milliers et milliers de militants qui ont donné de leur temps de façon bénévole pour la défense de la planète.
Oui, alors ceux qui vous posent problème, ce sont les dirigeants, ceux qui finalement ont participé entre autres au Grenelle de l'environnement, et ceux qui fréquentent assidûment les allées du pouvoir.
Mais ce sont des structures qui sont parfaitement bureaucratisées. Il n'y a aucune démocratie réelle. La démocratie, c'est pour tout le monde, c'est pas seulement pour la société ou pour les politiques, c'est aussi pour les associations écologistes. Et je constate, mais avec des preuves à l'appui, hein, avec des éléments très concrets, je constate que la démocratie n'existe plus, si toutefois elle a existé, dans ces associations. Donc je crois qu'il serait extrêmement important d'ouvrir les portes, les fenêtres et les archives, car contrairement à ce que dit Claude-Marie Vadraud, je pense et je suis sûr qu'il est très important d'interroger le passé. Hein, je cite cette phrase magnifique du philosophe d'origine espagnole Jorge Santayana, en entrée de mon livre, « Ceux qui ne se souviennent pas du passé sont condamnés à le revivre », et c'est exactement mon sentiment. Le passé que j'évoque, c'est pas un passé anodin. Claude-Marie Vadraud a l'air de croire que ce serait plutôt un travail de policier, mais pas du tout. Je m'interroge, par exemple, sur la manière dont le WWF international a été créé et financé, et par qui.
Oui, avec des personnages peu recommandables, liés entre autres au régime de l'apartheid, et liés aussi, pas seulement pour le WWF, mais aussi pour Greenpeace, d'ailleurs, avec un milieu de la finance, avec l'agro-business, etc. On a un peu l'impression que vous soulevez le tapis, quoi. Et que vous
Avec des preves. C'est-à-dire, il s'agit pas de divagation de ma part, ce serait très grave. Avec des preuves, le WWF international a été créé par un homme, Anton Rupert, qui est mort aujourd'hui. Il est mort en 2009, en 2006, à l'âge de 89 ans. Mais Anton Rupert a été un homme clé du système de l'apartheid en Afrique du Sud. Et Anton Rupert a financé le WWF international à l'aide de personnalités aussi immondes à mes yeux, pardonnez-moi le mot, mais aussi immondes que le défunt dictateur du Zaïre.
Alors, WWF n'est pas là pour se défendre. Je ne sais pas si Claude-Marie Vadrault a l'envie et les moyens de le faire.
Oui, j'ai l'envie et peut-être aussi les moyens de le faire. C'est pas parce que il y a 30 ou 40 ans, un personnage posait des problèmes. Effectivement, je l'ai moi-même écrit à propos de Luc Hoffmann dans Le Canard Enchaîné et d'autres journaux, qu'il faut condamner ce qui se fait aujourd'hui. Et puis,
donc le passé n'a pas d'importance.
Le passé n'a pas d'importance.
Ah, ça, c'est extraordinaire, ça. Merci, Claude-Marie Vadrault.
Je
vais retenir cette phrase.
Le passé n'a pas d'importance pour la cause que nous défendons aujourd'hui. Et ils ont changé
la question du financement.
Attendez, je m'excuse, j'interviens.
Non.
Vous répondrez après.
Moi, ce que je veux dire.
La question du financement, parce qu'il l'a évoqué aussi.
La question du financement, France Nature Environnement, comme toutes les associations de protection de la nature, est en partie financée. C'est la loi française de 1976 par le ministère de l'écologie, mais il y a bien d'autres institutions qui...
Mais quand il s'agit de financement par les agro-industriels, par l'agro-business, par des sociétés de produits chimiques, par exemple...
Alors là, on parle de quoi? On parle de qui?
De la Fondation Nicolas Hulot, par exemple.
Et on parle, par exemple, de France Nature Environnement, qui a fait des partenariats avec un champion des pesticides qui s'appelle Compo. C'est officiel, c'est documenté, cher Claude-Marie Vadrault.
Et est-ce que ça empêche l'action des militants? Non. Parce que, moi, je vais vous dire quelque chose. Je veux dire
ça,
que...
c'est fabuleux.
Quel est le rôle des associations? C'est pas de proclamer une vérité pure et extraordinaire sans aucune transformation de cette idée. C'est de parler avec des préfets, c'est de parler avec des ministres, c'est de parler avec les adversaires, avec les pollueurs. Pourquoi? Parce que au bout du compte, qu'est-ce qu'il y a? Il y a des compromis qui
donc
ne sont pas des compromissions.
Donc c'est faire du lobbying, de travailler sur la prise de conscience et de faire avancer les choses petit à petit.
Oui, et Nicolino, dans son livre, reproche à ces militants associatifs leur professionnalisation. Et comment on fait si on n'est pas professionnalisé pour faire face à des ministres qui sont des professionnels?
Fabrice Nicolino, est-ce que comme...
À des grandes boîtes de communication qui sont des professionnels.
Est-ce que finalement, Fabrice Nicolino, ce que vous préconisez, c'est pas finalement l'inefficacité? Parce que si on ne va pas dans les allées du pouvoir, si on n'approche pas l'ennemi, sorte, eh bien finalement, on est beaucoup moins efficace si on crie dans le désert.
Attendez, efficace pourquoi? On va en parler, j'imagine, un petit peu.
Pour le combat écologique,
efficace.
Que vous partagez tous les deux, d'ailleurs.
Je ne crois pas qu'il s'agisse du même, sincèrement. Mais écoutez, Claude-Marie Vadrault dit « le passé ne compte pas », ce qui est extraordinaire, que je vais noter scrupuleusement sur un petit carnet. Mais j'ajoute une chose, c'est que s'il ne s'agit pas seulement du passé, il s'agit du présent. Donc aujourd'hui, en 2011, le WWF siège dans des commissions informelles, mais tout à fait officielles, avec les pires industries de la planète, comme Monsanto par exemple, pour essayer de créer un label qui soit prétendument durable et qui permette aux industriels comme Monsanto, de vendre du soja transgénique dans tous les coins de la planète, qui permettent aux industriels des biocarburants, industrie criminelle s'il en est, et je pense que les auditeurs de RFI qui suivent cette question sont certainement au courant de ce que je veux dire, qui pourrait permettre aux industriels de vendre de l'huile de palme dite durable avec le label, la caution écologique de WWF, alors même que dans les plantations en ce moment, les plantations d'huile de palme en Malaisie ou en Indonésie, grâce au label du WWF, on peut utiliser des pesticides comme le paraquat qui sont parmi les plus dangereux du marché et qui sont rigoureusement interdits dans l'Union européenne.
Alors, si ce que Fabrice Nicolino est vrai, c'est un peu une trahison, Claude-Marie Vadrault, non? Une trahison du combat.
Est-ce que c'est vrai ou faux, Claude-Marie Vadrault, sur les deux tableaux?
Non, ce n'est pas parce que...
Mais est-ce que c'est vrai, surtout?
Est-ce que l'on ne parle pas avec... Il faut parler avec l'adversaire. Si je vais interviewer Jean-Marie Le Pen, ce que j'ai fait il y a quelques années, est-ce que je suis considéré comme complice de l'extrême droite? Non, je fais mon travail de journaliste. Et ben, les associations, quand elles vont discuter avec leurs pires ennemis, leurs adversaires, qu'elles siègent dans
y
les commissions.
Y compris quand ça débouche sur un label,
elles font leur
avec
boulot.
Donc la bénédiction
un label commercial,
oui, bien sûr, puisqu'on améliore la situation des gens qui supportent le baraquat.
Fabrice Nicolino, un compromis même mauvais à vos yeux, c'est quand même toujours un progrès.
Mais attendez. De quoi parle-t-on? Clément Evadro parlait tout à l'heure du mouvement d'il y a 40 ans, etc. Que s'est-il passé en 40 ans sur cette terre? Il y a 40 ans, les associations écologistes, très grossièrement résumées, se naissaient, se développaient en France et en Europe et dans le reste du monde. Il y a 40 ans, on avait une perception de la crise écologique qui était fausse, mais qui était partagée. Il y avait l'idée générale que la crise était localisée, que finalement, en mettant une rustine ici, une rustine là, en s'occupant de défendre un marais dans tel coin, ou une zone humide, ou une rivière à tel endroit, les choses iraient mieux. 40 ans plus tard, que constate-t-on? On constate que la crise s'est aggravée dans tous les domaines, qu'elle s'est connectée, qu'il y a des crises écosystémiques extraordinairement graves qui se sont reliées les unes aux autres et qui n'en forment plus qu'une. Autrement dit, la situation s'est incroyablement aggravée en 40 ans et je constate que de ce point de vue-là, le bilan des associations écologistes est tout simplement affreux.
Il est mais grand la prise temps, de conscience écologique temps. A progressé le Grenelle de l'environnement y a participé.
C'est encore loin d'être acquis ce que vous dites. Il y a eu une première vague écologiste. Vous n'avez peut-être pas été le témoin, mais moi j'ai vécu ce moment-là. Il y a eu une première vague écologiste dans les années 70. On a vu énormément de gens se mobiliser. Où il y a eu énormément de livres de très haute qualité. Je pense à André Gortz ou Ivan Illich qui ont été écrits. Cette première vague s'est brisée sur la réalité. Là, on assiste à une deuxième vague. Donc je ne suis pas du tout sûr qu'il s'agisse de quelque chose de spectaculairement différent. Et de toute façon, la situation a changé. C'est-à-dire que la question qui se pose aujourd'hui, c'est véritablement de savoir où nous allons. Et il est clair qu'en 40 ans, nous sommes rapprochés de ce gouffre que les écologistes aiment bien rappeler dans leurs propos.
Claude-Marie Vadreau.
Alors, on s'est rapproché de ce gouffre sur un point seulement, c'est la biodiversité. Parce que si vous prenez la qualité de l'eau de la Seine, qui est tout proche de nous, elle s'est considérablement améliorée depuis une quarantaine d'années. Le nombre des espèces de poissons a augmenté. Il y a partout des progrès. Et moi, ce qui me fascine, c'est l'attitude de Fabrice Nicolino, parce que finalement, il me fait penser à Claude Allègre. Vous avez tous les deux des postures tout à fait opposées. Nous sommes les seuls à avoir la vérité face à des méchants qui nous contredisent. Et le plaisir, finalement, c'est le plaisir d'être seul contre tous. C'est pas parce que on a eu du succès avec un excellent livre sur les pesticides que l'on a obtenu le droit d'insulter, je reprends le mot que j'utilisais au début, tous les militants qui, en France, en Afrique, en Asie, en Amérique latine, se battent pour améliorer les choses et quitte à passer effectivement des compromis. Et puis la fois suivante, on va rebondir et grignoter encore un peu plus une chance de sauver la planète, de sauver un système ou une forêt.
Fabrice Nicolino.
Je suis désolé, vous dites n'importe quoi. C'est un peu fâcheux, mais vous dites n'importe quoi. Vous dites que la situation en dehors de la biodiversité se serait arrangée. Vous portez votre regard sur la Seine, c'est franchement dérisoire. C'est franchouillard. Pardonnez-moi de vous le dire, c'est franchouillard. Il y a des rapports internationaux multiples,
sur la
innombrables. Mais attendez, la Seine, je vais vous dire la vérité très franche, je m'en moque. Je m'en moque de ce que vous dites sur la Seine.
Ben d'accord. Parce qu'il y a des gens qui vivent au bord de la Seine et qui sont intéressés au fait qu'elle soit sauvée.
Laissez-moi finir. La situation des grands fleuves de la planète, c'est très documenté, c'est incroyablement aggravé depuis 40 ans. Et quand vous dites que le seul secteur où ce serait vraiment aggravé, c'est la biodiversité, c'est ridicule. La crise des océans, la crise des forêts, la crise climatique, tout ça sont des notions dont on avait très peu conscience il y a 40 ans. Et aujourd'hui, ces questions nous assaillent car elles se connectent les unes aux autres. Donc je pense que votre conscience de la crise écologique n'est pas la même que la mienne. Et je rappelle, à nouveau, parce que je ne peux pas supporter que vous disiez cela de moi, je n'ai insulté personne dans ce livre. Vous dites que je suis seul contre tous, vous vous trompez lourdement, mais ça c'est votre affaire, pas la mienne.
Vous vous trompez
lourdement. Ce livre est dédié à des amis proches, dont Pierre Rabhi, dont Jean-Claude Pierre, qui est un pilier de la protection de l'environnement en Bretagne, à François de Beaulieu, qui a été longtemps secrétaire général de Bretagne Vivante. Je suis moi-même membre de Bretagne Vivante. Il y a une liste de noms il y a au moins 150 noms à la fin de mon livre de gens dans le milieu de l'écologie que je dis estimés ou qui sont parfois de vrais amis.
Et qui appartiennent au mouvement dont vous dénoncez le mode de fonctionnement dans tout le reste du livre.
Par exemple, je critique très durement la Fondation Nicolas Hulot, mais je dis aussi, parce que c'est la pure vérité, que j'ai de l'estime pour cet homme, pour ce personnage. Donc, je veux dire, le procès que vous me faites, Claude-Marie Vadrault, c'est bien votre droit, mais il signifie pour moi une seule chose, c'est que, encore une fois, vous n'avez pas lu mon livre, c'est dommage.
Je l'ai lu, j'ai pris beaucoup de notes et j'en suis sorti affligé. Je comprends pas qu'on puisse écrire un tel bouquin assassinant ces militants et ces dirigeants qui passent leur
temps. Mais parlons de faits.
Mais quel est l'objectif que vous poursuivez à travers ce livre?
Vous voulez quoi, qu'il disparaisse?
Est-ce
vous
que
voulez
finalement qu'il vous ne tirez pas sur votre propre camp?
Non, mais oui. Est-ce que les jeunes vont s'inscrire dans les associations?
Premièrement, le camp des bureaucraties qui s'autoproclament représentantes de la société civile française, ce camp n'est vraiment pas le mien. C'est sûr et certain.
Donc vous n'êtes pas dans le même camp que WWF, la Fondation Nicolas Hulot, ou France Nature Environnement, dont une association est quand même adhérente.
Disons que dans ce que j'écris, décrit avec précision et argument dans ce livre, je réponds non.
Ce ne sont pas des camarades de combat.
Mais quand ils font ce que je décris dans le livre, sûrement pas. Je suis à l'opposé de cela, et je pense que la situation est si grave et si complexe aujourd'hui qu'il est extrêmement important de repenser le mouvement écologiste pour lui donner sans doute une autre base, une cohérence. Premièrement, il faudrait commencer par savoir nommer l'adversaire. L'adversaire principal, pour moi, il est clair. L'adversaire principal, c'est le système industriel et les transnationales qui sont le plus souvent...
Là-dessus, on est d'accord.
Je ne crois pas du tout que...
Résumer, vous dites, c'est peut-être un petit peu caricatural, mais vous dites le développement durable, c'est une arnaque, vive la décroissance.
Je n'ai pas employé le mot décroissance dans mon livre.
Justement, c'est étonnant.
Et pour ce qui concerne le développement durable, puisque vous me tendez une perche, je la saisis. Le développement durable, je décris précisément dans le livre comment cette notion s'est répandue dans les esprits, à quels intérêts elle sert. Mmh. J'ai pu montrer avec, encore une fois, des faits et des dates très précises qu'un monsieur Maurice Strong, qui est donc un homme des transnationales qui a dirigé Petro-Canada pendant très longtemps et qui a été par ailleurs le premier secrétaire du programme des Nations Unies pour l'environnement et un ponte du WWF, ce monsieur Maurice Strong est à l'origine de l'expression de développement durable qui sert admirablement bien les intérêts industriels et admirablement mal ceux de l'écologie.
Claude-Marie Vadrault, sur la notion de développement durable, parce que là on est quand même au cœur du projet.
Le mot développement durable, là je vais être d'accord avec Fabrice Nicolino, c'est un mot que je n'écris jamais et que je ne prononce jamais parce que je n'y crois pas, parce qu'il sert à cacher tout et n'importe quoi.
Mais alors vous n'avez pas répondu à ma question Fabrice Nicolino sur la décroissance. Alors vous récusez l'expression le combat pour le développement durable. Quelle alternative?
Si je le savais, franchement, je suis pas sûr que je serais en train de répondre à vos questions. Je veux dire.
Avez pas d'alternative à reconstruire.
Écoutez. Ma question est très simple. La situation est-elle grave et est-ce qu'elle commande de mobiliser toutes les énergies pour trouver des solutions? Prenons l'exemple actuel du nucléaire au Japon. Il est clair que la question posée par cette catastrophe épouvantable, c'est la question de l'énergie, de la consommation d'énergie. Donc quand y aura-t-il un vrai débat public qui échappe à l'État et aux industriels, donc un débat de la société sur notre niveau souhaitable de consommation d'énergie, c'est ça la solution, par exemple, en ce qui concerne la crise du nucléaire ou la crise annoncée des gaz de schiste. C'est la démocratie, la mobilisation consciente des citoyens et des actions différentes de celles qui ont été menées et qui ont conduit à l'échec collectif.
Actions différentes, ça veut dire ?
Actions différentes, ça veut sans aucun doute possible dire clairement que nous sommes là pour affronter un système industriel et les transnationales de façon à réorienter radicalement l'économie du monde et la nôtre en particulier.
Est-ce que la crise nucléaire au Japon, Claude-Marie Vadrault, impose de passer du dialogue à l'affrontement, pour reprendre le mot de Fabrice Nicolino ?
Non, je pense qu'il faut dialoguer, qu'il n'y a pas d'autre solution, qu'on ne va pas passer à la suppression des centrales nucléaires l'année prochaine ou dans 15 jours, c'est ridicule, qu'il faut probablement...
Mais qui le dit ? Pas moi.
Non, mais les écologistes le disent et les politiques nous accusent, vous et moi, de le penser. Non, il faut passer, disons, en une génération à beaucoup moins de centrales nucléaires. Mais moi, ce que je reproche au livre, j'ai lu quelque chose...
Parce qu'on arrive à la fin.
D'accord. Eh bien, Fabrice Nicolino constate que les militants de protection de la nature sont de plus en plus âgés. Et je ne crois pas qu'avec ce livre, il va encourager les jeunes à y adhérer.
Les jeunes aiment la révolte, figurez-vous, Claude-Marie Vadrault. C'est peut-être gênant pour nous, mais c'est comme ça. Et je leur souhaite bon courage avec ceux qui ont encore envie de se battre.
Merci.
Dont je suis.
Merci beaucoup à tous les deux. Claude-Marie Vadrault, journaliste à Politis et à Mediapart. Merci à vous, Fabrice Nicolino, qui a tué l'écologie. C'est aux éditions 3L, les liens qui libèrent.